Bonjour à tous, bonjour à toi, merci pour l'invitation.
Alors, on va parler évidemment du sujet qui nous intéresse, puisque tu es coordinateur du festival Écoute Voir. J'ai simplifié un peu ton rôle au sein de ce festival Écoute Voir, mais tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Un festival qui aura lieu du 18 au 20 janvier 2018, donc à Tours, qui mêle en fait plusieurs disciplines artistiques. Alors on va évidemment parler de ce festival pendant cette émission. D'abord, est-ce que tu peux te présenter toi et nous dire du coup tes fameuses fonctions au sein de ce festival?
Alors rapidement, donc je dirige La Belle Orange, qui est un bureau d'accompagnement d'artistes chorégraphiques et de compagnies de danse contemporaine, voilà, qui sont toutes, on travaille avec des artistes qui sont basés tous en région centre. Et dans ce cadre-là, je travaille en binôme avec Francis Plisson, qui est un chorégraphe qui est bien connu sur Tours, de la compagnie Marouchka, avec qui je travaille depuis 2011. Et dans ce cadre-là, la compagnie Marouchka et Francis Plisson ont coproduit avec le Petit Faucheux un festival, qui est le festival pour lequel je suis là aujourd'hui, qui s'appelle le Festival Écoute Voir, et dont on va présenter la 8e édition à partir du 18 janvier prochain. Voilà.
Francis Plisson, justement, je l'ai eu cet après-midi au téléphone. On l'a enregistré bien peu avant que t'arrives ici. Et en fait, on a parlé avec Francis Plisson de la programmation, puisqu'il est directeur finalement de la programmation.
C'est exactement ça. Voilà. C'est lui qui programme.
Et du coup, il nous a parlé un peu de cette édition 2018 et de ce qu'il y aura pendant ces 3 jours. Je vous propose, chers auditeurs, de l'écouter et on revient tout de suite après pour évoquer plus largement le festival. C'est parti.
Francis Plisson, on va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de votre métier chorégraphe et puis de ce qui vous a amené à faire de la programmation pour Écoute Voir?
Donc, bonjour, déjà, donc, oui, j'ai un parcours de danseur d'abord, de danseur classique, donc pour une première partie de ma carrière, et puis j'ai travaillé avec Mehdi Marin, ce qui m'a fait une bifurcation un peu vers la danse contemporaine, qui d'abord, après cette carrière d'interprète, j'étais amené à aborder l'écriture chorégraphique, c'est là où j'ai commencé à revenir sur Tours, j'ai fondé la compagnie Marouchka. Et j'ai créé une quinzaine de pièces où moi-même, sur mon travail déjà de recherche, parce que j'avais une double formation de musicien et de danseur, j'ai commencé à travailler beaucoup sur les rapports entre le corps et le son, notamment entre la danse et la musique. Mm-hmm. Et c'est assez naturellement, finalement, avec d'abord une grande complicité avec le Petit Faucheux, qu'on produit la plupart de mes productions à moi, de mes spectacles en tant qu'auteur. Et on est arrivé à un moment donné, je suis arrivé à effectivement proposer une première édition de programmation, d'abord que sur des rapports entre la danse et la musique, et puis au fil des années, puisque cette année on est sur la 8e édition du festival déjà, où on est arrivé à travailler vraiment sur des propositions qui se trouvent, on va dire, dans l'entre-deux, dans toujours avec ce fond de rapport entre le corps et le son, mais qui sont des propositions un peu non définissables, qui vont se retrouver toujours entre la danse, entre le théâtre, entre l'art plastique, entre le concert à écouter. Donc voilà, un petit peu, en bref, si je peux raconter ma vie.
Et d'ailleurs, vous l'évoquez notamment dans le fascicule Écoute Voir, vous dites « Nous conforte dans nos choix », alors les éditions précédentes, pour être précis, « Nous conforte dans nos choix d'artistes difficilement classables ». Alors on parlera évidemment un peu plus tard là, de la programmation, mais est-ce que vous pouvez commenter un peu ces termes « difficilement classables » ? Est-ce que c'est aussi votre objectif de proposer un peu des spectacles, je dirais, atypiques ?
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'objectif du festival. Ça s'est affiné petit à petit. C'est aussi comment il a trouvé sa place sur la ville de Tours par rapport aux autres propositions des autres lieux qui sont, on va dire, plus spécifiques, où on va voir du théâtre à l'Olympia, on va voir de la danse au CCMT, de l'opéra à l'opéra, où ça m'intéressait de travailler sur des gens, effectivement, qui sont parfois, n'utilisent pas leur médium de base. Je pense notamment à une artiste que j'ai programmée au festival cette année qui s'appelle Miette Jeanne Barlop, qui est plasticienne à la base, mais qui finalement se retrouve à mettre en scène un concert, où finalement on ne sait plus très bien, et je trouve que dans les formes actuelles, en tout cas dans les formes de ces dernières années, on trouve de plus en plus d'artistes comme ça, qu'on ne peut plus appeler des artistes pluridisciplinaires, mais qui sont justement voilà, des inclassables, et qui du coup produisent des objets qui sont un peu des objets où on ne sait pas dans quelle case mettre, voilà.
Oui, voilà, un peu des ovnis de la culture, en tout cas du spectacle. Je ne sais pas si on peut,
ouais,
on peut dire ça comme ça.
Finalement, ça finit par devenir un genre à part entière.
Ouais,
c'est ça qui devient intéressant.
Effectivement, on pourrait presque les rebaptiser OSNI, objets scéniques non identifiés presque.
Voilà, c'est ça.
Vous avez parlé tout à l'heure de cette 8e édition, donc qui aura lieu du 18 au 20 janvier 2018, on le rappelle pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'histoire de ce festival? Parce que 8e, voilà, ça commence à faire, hein, ça a commencé, ouais, du coup en 2010, si je me trompe pas dans mes calculs.
Oui, tout à fait, ouais. C'est un festival qui a trouvé petit à petit sa place. En fait, on est parti au départ avec une programmation sur 2 jours, avec un tout petit budget, où déjà de toute façon la thématique entre le corps et le son était déjà très clairement posée. Mm-hmm. Au début, on va dire que les premières années, c'est beaucoup des gens de mon propre public, on va dire, qui a commencé à suivre tout le festival, qui voyait toutes les propositions, puis petit à petit le public a grossi. Et puis ce qui est intéressant maintenant avec le festival, c'est qu'on arrive à toucher on va dire justement du public de différentes disciplines, c'est-à-dire des publics d'art plastique, des publics de concert, des publics de théâtre, ou des publics de la danse, en fait. C'est ce qui est intéressant. Et sur le festival, souvent les gens me disent, on me renvoie ça en tout cas du public, en fait, ils viennent au festival pour être surpris, en fait, pour voir des choses qu'ils diront on ne peut pas voir normalement.
Ils le sont généralement en sortant après des spectacles.
Oui, ils le sont un peu, souvent surpris, souvent un peu décoiffés, mais je pense qu'ils viennent chercher ça. En plus, on peut nous le sentir avant, où on avait pas mal de public qui venait voir un artiste spécifique parce qu'il avait entendu parler ou qu'il était attiré par lui ou choses comme ça. Et maintenant, on a des gens qui prennent un pass pour la journée sans trop savoir ce qu'ils vont voir, en fait. Et pour moi, ça, c'est une grande victoire. Quand les gens finissent par faire confiance, du coup, à la programmation.
Oui, voilà. Après, c'est vrai que ça reste quand même un peu acquis tout double aussi pour celui qui vient voir, quoi, pour le spectateur aussi, parce que c'est vrai qu'il sait pas à quoi il va s'attendre avec ce genre de spectacle.
Oui, c'est ça, mais en fait, ils recherchent ça, c'est aussi, ça devient quelque chose d'excitant, on va dire, de lancer dans l'aventure aussi, voilà, de pas savoir où on va aller voyager, on va dire.
Alors justement, parlons de cette programmation pour cette 8e édition du festival Écoute Voir. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors c'est sur 3 jours, hein, déjà, avec plusieurs spectacles différents, de la musique, de la danse, un peu, enfin plein de choses différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du spectacle et de l'événement phare, ou en tout cas qui vous a tenu à cœur de présenter cette année?
Ben, c'est difficile, toujours, c'est la question toujours qu'on me pose, mais c'est difficile pour un programmateur.
En fait,
on pense une programmation souvent. Moi, je pense souvent à la programmation comme si les gens allaient tout voir. En fait, pour moi, ça a un sens de tout voir parce qu'un spectacle va renvoyer à l'autre ou va être dans l'opposé. Mais donc, j'ai envie de dire, venez voir tout. C'est difficile pour moi de choisir un spectacle plus qu'un autre, mais après je peux parler un petit peu des différents artistes qui sont invités, parce qu'en plus ça c'est quelque chose je tiens beaucoup, c'est d'inviter des artistes avant d'inviter des produits, on va dire, voilà. Mm-hmm. Donc il y a Miel Darlop, par exemple, il y a des artistes qu'on n'a jamais vus à Tours et qu'on a peu vus en France qui vont venir cette année, parce que notamment j'ai 2 artistes flamandes, où je trouve que la scène flamande actuellement est extrêmement vivante et pertinente. Donc j'ai parlé tout à l'heure de Miel Darlop qui va jouer du coup à la Pléiade le jeudi soir, le jeudi 18 à 20h30, où là on est dans vraiment un objet complètement déjanté entre le concert rock, la performance plastique, haut en couleur et en dynamique. Mm-hmm. C'est vrai que c'est un spectacle qui m'a beaucoup séduit et que je suis très très content de faire venir à Tours. Et l'autre artiste flamande, ça va être Sabine Molénard, qui elle passe, là du coup on n'est pas dans le même style, mais c'est une artiste danseuse, contorsionniste, vraiment une jeune artiste assez incroyable, qui elle va jouer vendredi soir au Petit Faucheux. Autrement, je pourrais parler aussi de d'Ali Moani, qui est aussi un artiste iranien, qui va jouer samedi. My Paradise is Knife, qui est vraiment une pièce extrêmement forte. Ou alors de Camille Mutel aussi, qui va jouer aussi à l'Olympia, qui est une artiste qui vient du striptease à la base, et après qui est passée par la danse buto et qui du coup a des propositions vraiment très très atypiques. Ou encore d'une artiste que j'ai invitée qui s'appelle Seva, qui va jouer à la petite Louise, qui va jouer dans différents lieux, qui est des propositions très très courtes, mais qui a une danse comme ça très très précise, très fine, et qui joue du coup une fois à la galerie Olivier Rousseau dans des petits espaces, musée des Beaux-Arts, à la librairie Le Livre, en fait, qui ont vraiment du coup un rapport de grande grande proximité avec le public. Donc voilà, après je pourrais énumérer toute la programmation, mais
oui, c'est vrai, voilà. Qu'il y a d'autres spectacles aussi. Par contre, est-ce qu'on peut revenir sur ce spectacle là, Go 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 Set the Bird, donc c'est de Camille Mutel, hein, c'est le samedi 20, c'est le dernier en fait. C'est un spectacle qui est réservé aux adultes pour le coup, donc qui est caractère érotique un peu, comment c'est ce spectacle pour qu'il soit réservé exclusivement aux adultes?
Oui, alors c'est difficile parce que c'était de la surprise. Donc alors c'est vrai que si je dévoile trop, après je suis surprise. mais quand même, je peux quand même me dire un peu. Oui, tout à l'heure, j'ai donné une petite piste à nous. Donc effectivement, c'est une artiste qui vient, qui a été modèle, qui a travaillé aussi comme stripteaseuse dans ses premiers temps de carrière, qui est une très très belle danseuse de buto. Là, elle a fait un travail. Je sais pas si ça va dépendre des gens, des références des gens, mais si les gens ont lu Bataille, l'histoire de l'œil de Bataille, par exemple, on est très proche de ce genre de on va dire d'érotisme intellectuel. C'est réservé aux adultes parce qu'il y a de la nudité, parce qu'on est aussi c'est un spectacle qui m'a beaucoup touché donc c'est une jauge très très réduite, c'est pour que 70 personnes à la fois, du coup il est programmé deux fois, donc si les gens veulent le voir, il faut vraiment qu'ils s'occupent, qu'ils fassent très attention à bien réserver leur place. Et on touche, effectivement on va toucher des choses qui de l'ordre de l'érotisme, de la représentation de l'érotisme, sans jamais être vulgaire, et à la fois ça va quand même très très loin. Donc c'est très perturbant en fait, intellectuellement très perturbant. Voilà.
On a écouté Francis Plisson, qui est directeur de la programmation du festival Écoute Voir, et on est du coup de retour sur Sortez, ou plutôt dans Sortez, sur Radio Campus Tours. Voilà, on va reprendre les bons vieux réflexes d'avant pause de fête de fin d'année. Nous sommes toujours évidemment en direct avec Mathieu Roger. Je me tourne vers toi, Mathieu. Est-ce que tu es d'accord déjà avec ce qu'a dit Francis Plisson par rapport à la programmation? Est-ce que c'est un point de vue que tu partages?
Bah oui, je partage son point de vue dans le sens où effectivement on essaye avec le festival Écoute Voir depuis plusieurs années de montrer des spectacles ou des performances qui relèvent de l'hybride, qui relèvent non pas comme il disait forcément du pluridisciplinaire, mais des choses qui sont inclassables. Donc voilà, donc on est à la croisée des chemins entre la danse contemporaine, entre la musique contemporaine, entre les arts visuels, et puis on va dire ce sont des propositions performatiques, voilà, d'art contemporain en général. Donc vraiment, si on cherche à être étonné, si on cherche effectivement à avoir du spectacle dont on n'a pas vu, qu'on voit pas habituellement en fait, voilà, qu'on peut pas trop rentrer dans des cases, qu'on peut pas trop rentrer dans des étiquettes, bah c'est l'occasion. Ce sera voilà, c'est vraiment des choses qui sont plutôt qui généralement ne laissent pas insensible en tout cas.
La programmation, du coup, on vient de l'évoquer avec Francis Plisson. Est-ce que maintenant, on peut évoquer l'aspect un peu logistique, etc., et puis tout ce qu'il y a autour, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres questions à se poser par rapport à ce festival. Et premièrement, la question des lieux. On l'a évoqué en antenne. Bon, évidemment, nos auditeurs ne nous ont pas entendus. Mais est-ce que tu peux nous parler de tous ces lieux qui vont accueillir ce festival, parce qu'il y en a plusieurs, et c'est assez étonnant, finalement, pour un festival?
Bah justement, ça fait partie d'une de nos grandes fiertés, en fait, c'est d'avoir pu à la fois pérenniser et puis étendre le nombre de partenariats qui permettent à ce festival justement de se reproduire année après année. Alors c'est vrai qu'après nous, la compagnie Marouchka, on coproduit le festival avec avec le Petit Faucheux. Donc voilà, donc le Petit Faucheux, c'est le lieu, enfin, on va dire emblématique du festival. C'est là où s'était passé, par exemple, entièrement la première édition en 2011, parce que ça fait depuis 2011 que le festival existe. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a plus d'une demi-douzaine de lieux Tourangeau, parce que c'était aussi la volonté de rester dans un petit périmètre pour pouvoir permettre au public de pouvoir se déplacer de proposition en proposition, sachant que le festival est construit de telle sorte qu'on peut voir toutes les propositions. Voilà, c'est ça aussi. Donc voilà, donc après, effectivement, il y a beaucoup de lieux partenaires, lieux d'accueil partenaires. Je pourrais tous les citer, hein. Il y a le Volapük, il y a la Pléiade. Évidemment le Petit Faucheux, on l'a dit, la galerie Olivier Rousseau, le musée des Beaux-Arts de Tours, la librairie Le Livre, le théâtre Olympia et puis la chapelle Sainte-Anne. Donc effectivement, c'est vrai qu'autour de la compagnie de Marouchka et puis du Petit Faucheux, maintenant il y a tout un nombre de partenaires qui font que bah voilà, c'est plus agréable de travailler et ça nous permet aussi de trouver les bons formats de salles et d'accueil en fait en fonction des propositions, parce que c'est ça aussi des fois qui est difficile dans la tâche de Francis, c'est des fois il y a des spectacles ou des performances qu'il a envie de faire venir sur Tours. Mais après, on n'a pas forcément le lieu d'accueil qui correspond, que ce soit pour des questions techniques ou des questions d'esthétique ou de format. Voilà.
Et tu parlais de parcours aussi. Est-ce que c'est voulu un peu de faire voyager les gens finalement dans Tours ?
C'est complètement voulu. C'est-à-dire que déjà, comme je le disais tout à l'heure, tous les spectateurs peuvent voir chacune des propositions. C'est pour ça que certaines d'entre elles, comme Seva, comme Ali Moigny ou comme Camille Mutel, on les fait jouer plusieurs fois, voilà, pour permettre aux gens, en fonction des horaires, de se déplacer. Et puis en fait, la programmation qui est construite par Francis, justement, c'est vraiment naviguer dans un vis-à-vis entre le corps et le son, voilà, pendant 3 jours. Voilà, donc sur des propositions avec des médiums qui sont différents en fonction des artistes. Mais le but, c'est qu'en fait, il y a quand même une cohérence dans ces 3 jours-là. Donc effectivement, s'il y a des spectacles qui sont en début de festival, c'est pour certaines raisons. Et s'il y en a d'autres qui sont en fin de festival, c'est pour une autre raison. Et par exemple, voilà, il y a des parcours qu'on peut faire aussi sur une journée, comme par exemple le samedi. On peut aller se balader l'après-midi avec Seva ou après avec l'installation Volapük de Sébastien Rouillet et puis Perrine Mornay. Et puis après, effectivement, se rendre plus tard, un peu plus tard, avec Ali Moigny et Camille Mutel au Théâtre Olympia. Donc effectivement, il y a cette notion de parcours, elle est complètement revendiquée, assumée dans la programmation. Et ça, après, il faudrait rentrer un peu dans le vif du sujet, dans le contenu des pièces. Et ça, c'est effectivement, comme disait Francis, c'est un peu délicat. Autant laisser la primeur aux gens de découvrir un peu ce qui va s'y passer.
Qui dit parcours dit aussi... un certain tarif, je parle en termes de prix aussi, mais en termes d'abonnement, je dirais, c'est-à-dire que est-ce que les spectateurs qui voudront assister au festival auront un pass ou comment ça va se passer à ce niveau-là ? Ils vont devoir payer séparément les spectacles en sachant qu'il y a quand même 2 spectacles qui sont gratuits, il faut aussi le préciser.
Ouais, il y a 2 spectacles qui sont gratuits, donc celui qui ouvre le festival, qui est pas un spectacle, qui est une sortie de résidence de Cécilia Ribaud au Volapük le jeudi 18 janvier à 18h. Et puis effectivement, les performances de Seva qui ont lieu à la galerie Olivier Rousseau, au musée des Beaux-Arts de Tours, et puis à la librairie Le Livre, le samedi après-midi entre 14 et 18h, voilà, à plusieurs reprises. Après, en ce qui concerne la politique tarifaire, elle est faite en concertation avec le Petit Faucheux, qui sont nos partenaires sur ce festival-là. On a vraiment une politique du prix bas, en fait, c'est-à-dire c'est garder en fait l'accessibilité à tout le monde, sans parler forcément de gratuité systématique. Mais voilà, on est sur des prix, c'est depuis la première édition, depuis 2011, on est toujours resté sur la même fourchette de prix, on n'a pas monté, sur des prix qui oscillent entre 5 euros et 12 euros, là 14 euros voilà, cette année au maximum. Voilà. Donc on est vraiment sur des propositions qui sont vraiment très peu chères par rapport aux prix qui sont pratiqués sur des représentations qu'il peut y avoir dans d'autres lieux ou dans d'autres villes.
Et avec un pass 4 spectacles, hormis, alors c'est marqué entre parenthèses en tout cas, hormis Miette Warlop, je m'excuse pour la prononciation, mais c'est voulu aussi d'instaurer un pass.
Là, effectivement, j'inciterai justement les gens qui veulent, ceux qui connaissent le festival et ceux qui ne le connaissent pas encore, de se munir de ce pass à 25 euros qui permet d'aller voir 4 spectacles, hormis celui de Miette Warlop en ouverture le premier soir à la Pléiade le jeudi 18 janvier. Mais effectivement, c'est voilà, ce qui revient encore moins cher que de prendre des demi-tarifs ou des tarifs réduits sur quatre propositions. Donc c'est vrai que pour 25 euros, vous pouvez voir quatre propositions différentes. Et justement, c'est aussi tout l'excitation que peut nous procurer l'art contemporain. C'est justement d'en avoir 2, 3, 4, 5 propositions différentes. On découvre que l'art contemporain nous présente des esthétiques qui sont complètement différentes et qu'on peut à la fois être touché, bouleversé par une esthétique et peut-être plus moins déçu ou en tout cas plus heurté par d'autres. Et c'est ça justement ce jeu de va-et-vient et de parcours qui est intéressant. Donc ce passe-là de 4 spectacles pour 25 euros, oui, effectivement, c'est encore moins cher qu'effectivement que de prendre au spectacle par spectacle.
Mais pourquoi alors du coup avoir évincé un peu Miette Warlop? Est-ce que vous estimez finalement qu'elle mérite que tout le monde paye ou que son spectacle mérite ça? Ou de l'avoir exclu de ce pass 4 spectacles?
De manière très pragmatique, c'est que Miette Warlop, les places sont un peu plus chères, c'est-à-dire qu'elles sont entre 8 et 14 euros, alors que sur l'ensemble du festival, c'est entre 5 et 12. Donc il y avait effectivement, c'était pour pas effectivement brouiller un peu la grille tarifaire. Et puis c'est un spectacle qui est en coproduction, qu'on accueille en coproduction et en partenariat avec la Pléiade. Donc il y a un montage économique qui est un peu particulier. Et sachant que, enfin, je tiens quand même à le préciser, c'est Miette Warlop, c'est vous aurez des tarifs qui seront deux fois, trois fois plus élevés en fait, autre part si vous voulez voir. Donc même 14 euros en tarif plein, c'est vraiment rien du tout, quoi.
On va peut-être rebondir là-dessus, Mathieu, si tu veux bien, par rapport à l'exposition qui aura lieu du 13 au 28 janvier et qui est dans le cadre de ce festival, une exposition de Laurent Goldring qui s'appelle « Visage et corps, nu et portrait ».
Oui, tout à fait. C'est aussi un des axes du festival, c'est de garder une relation à l'art visuel et aux installations qui peuvent être à la fois plastiques ou alors ceux qui peuvent utiliser plusieurs médiums. Et donc, cette année, on encore a une collaboration toujours avec la Chapelle Sainte-Anne, où effectivement, dès le 13 janvier, voilà, une exposition qui sera visible jusqu'au 28 janvier, donc voilà, plus de deux semaines, avec un premier rendez-vous. Voilà, le vernissage sera à 18h le samedi 13 janvier. Donc voilà, ça aussi pareil, allez-y, rendez-vous-y pour vous rendre compte. Mais voilà, on va dire que Laurent Goldring, c'est effectivement un plasticien qui a beaucoup plus de facettes que ce que l'art plastique peut regrouper quand on en parle. Il travaille aussi la vidéo, la lumière, enfin voilà, c'est vraiment un touche-à-tout. Et là, il va nous proposer une installation, parce qu'effectivement, pour ceux qui connaissent la Chapelle Sainte-Anne, c'est un lieu qui a de nombreux recoins, voilà, qui jouera sur le trouble, sur la perspective qu'on peut avoir du corps et de ses nombreuses évocations. Donc voilà, vous pouvez vous y rendre dès le 13 janvier. Voilà, le festival commence à partir de cette date, en fait, un peu.
Et l'exposition, d'ailleurs, elle fait écho au spectacle de Camille Mutel, Gogo Said the Bird, qui est réservé aux adultes, en tout cas qui traite ce sujet de la nudité.
C'est effectivement le sujet de la nudité, ça peut en art contemporain des fois peut être un sujet un peu galvaudé ou peut être un poncif. On va dire que ce sont deux artistes, que ce soit à la fois Camille Mutel et Laurent Goldring, justement, qui en montrent une part sensible qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors voilà, sans jamais qu'on soit effectivement, il y a toujours l'évocation du sexuel, du sexué. Mais voilà, sans jamais rentrer dans quelque chose de vulgaire, en tout cas, voilà. Et c'est cette sensibilité-là, justement, qu'on voulait mettre en lumière au festival.
Est-ce qu'on peut évoquer maintenant l'aspect purement esthétique, ou en tout cas l'aspect de communication autour de ce festival? Alors j'ai la plaquette sous les yeux, peut-être que nos auditeurs l'ont aussi, mais c'est l'image d'un homme torse nu avec des fils électriques autour de la tête, et en tout cas de façon générale c'est une communication assez simple, épurée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ce fascicule en l'occurrence, et puis plus généralement de la communication qui a été faite autour du festival?
Bah déjà, est-ce qu'il marche bien ce visuel? Est-ce que ça agrippe le regard?
Ben oui, alors en fait c'est, bon, pour expliquer à nos auditeurs, c'est rose et blanc, hein, le code couleur, rose, des nuances de rose en tout cas. C'est assez, oui, c'est simple et efficace, ou en tout cas moi c'est mon ressenti. Mais est-ce que c'est voulu d'avoir fait déjà ce ton de couleur? Est-ce que c'est aussi peut-être ce qui représente le festival, ces couleurs-là? Est-ce que ça a changé au fil du temps?
Alors,
ça fait beaucoup de questions d'un coup.
Ouais, non, le but, c'est justement, on collabore pour la communication maintenant depuis 2 ans avec Séverine Charrier, voilà, qui a une agence de conception graphique, et les visuels, en tout cas, pareil, c'était celui de l'année dernière, et elle a travaillé ça avec une photographe qui s'appelle Géraldine Arestéanu, qui est très talenteuse, et c'est là aussi pour reprendre le titre du festival, écoute voir. Donc l'année dernière, effectivement, on jouait déjà sur l'oreille, sur l'écoute, sur la vue, qui était plus ou moins brouillée, parce qu'effectivement, pour pour ceux qui avaient vu l'affiche de l'année dernière, on était sur quelqu'un qui était au fond d'une baignoire, sous l'eau, donc avec la vue qui était troublée, et une femme sur lui dont on voyait que l'oreille, voilà, qui était allongée sur lui. Là, cette année, effectivement, on a une tête qui est enrobée d'un fil électrique avec un câble, une prise électrique qui sort sur le devant. Donc voilà, c'est un appel à se connecter à une programmation dont le spectateur sera amené à dévider le fil au fur et à mesure des trois jours. Et c'est aussi pour rebondir de manière artistique sur ces deux sens, voilà, qui sont à l'honneur au festival. Louis et la vue, en fait, voilà, la vue. Finalement, est-ce que c'est pas Louis qui va nous permettre de voir, ou est-ce que c'est pas la vue qui va nous permettre d'entendre d'une manière différente? Ouais, je pense que c'est ça un peu que Séverine Charrier et Géraldine a resté à nous et essayer de faire passer à travers ce visuel.
Dénouer les fils, c'est assez beau.
Ouais.
Non, mais par contre, est-ce que finalement, après ces spectacles, ça va pas plus perturber les spectateurs plutôt que simplifier leur vision, en tout cas de l'art contemporain? Parce qu'on parle de dénouer les fils, mais c'est peut-être l'inverse que ça va produire, ce genre de spectacles qui sont très atypiques, on l'a dit, notamment avec Francis Plisson tout à l'heure.
Bah, j'ai envie de dire que s'ils en sortent perturbés, c'est le pari sera gagné. Voilà, le but, c'est de pas
c'est
laisser...
C'est vraiment
le...
une volonté.
C'est de... vraiment une volonté, voilà, de Francis Plisson quand il construit cette programmation, c'est... Le pire, ce serait de laisser le spectateur ou l'auditeur indifférent, voilà, insensible à ce qui vient de se passer. Si on est perturbé, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui rentre en jeu, et ça veut dire qu'on est rentré dans la sensation, ça veut dire qu'on est rentré dans l'émotion, et que d'une manière, on a été touché par l'univers de l'artiste qui est en face de nous. Donc j'ai envie de dire, ce mot-là, perturbé, je le vois pas de manière négative, on va dire. Et effectivement, quand on rentre dans les objets qui sont inclassables, un peu hybrides, comme ceux qu'on présente au festival Les Coups de Voir, voilà, être perturbé, en tout cas, être choqué, être déplacé, voilà, c'est ça qu'on a envie de provoquer.